Bonjour frère Sylvain, soyez le bienvenu.
Merci.
Parmi nous. C'est avec joie que les équipes de Rosaire vous accueillent pour la célébration de Notre-Dame de Bouglose. Frère Sylvain, vous venez de Toulouse, la communauté des frères prêcheurs, la communauté dominicaine, et vous venez d'écrire votre petite théologie, comme vous avez dit ce matin, pendant le Covid, le confinement, le premier confinement, la petite théologie de Rosaire. Joseph ne craint pas de prendre chez toi Marie. C'est le thème qui accompagne les célébrations de l'octave de Notre-Dame. Vous nous donnerez des pistes pour approfondir le ne craint pas de Joseph, dont nous avons tous tellement besoin en ce moment. Nous avons jusqu'à 15h30. Ensuite, si vous le voulez bien, en temps de questions-réponses, et vous pouvez également faire signer des livres qui vous restent. Voilà. La petite théologie.
Merci Lydia et merci à tous de m'accueillir. Donc pour la petite histoire, Lydia m'a rencontré il y a à peu près un an, c'était au mois d'octobre, où j'étais venu au monastère de Dax pour présenter donc ce petit livre qui s'intitule « Petite théologie du rosaire ». Et les moniales m'avaient invité à le présenter pour une raison très simple. C'est que j'étais l'aumônier l'année d'avant qui devait assurer les fêtes de Pâques en 2020. Et à cause du confinement, il a fallu que j'arrive avant les fêtes de Pâques. Je devais rester 2 semaines, 3 semaines maximum, et vous vous rappelez la suite de l'histoire. Je me suis retrouvé avec l'aumônial confiné pendant plus de 2 mois. Et ça a été un moment béni pour moi, puisque je me suis retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre mes travaux universitaires. Je dépose ma thèse, si tout va bien, dans moins de 10 jours. Donc alors je compte sur vos prières, parce que c'est un moment un peu difficile à passer. Mais à l'époque, à Dax, j'étais privé de mes livres, de mes ressources à la bibliothèque. Je faisais les cours à distance, j'étais professeur à la Cato de Lyon à l'époque. Maintenant j'enseigne à la Cato de Toulouse, la ville où j'habite. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps? Et ça faisait des mois et des mois qu'un frère, le frère Philippe Verdun, qui est l'éditeur des éditions de La Licorne, m'avait dit, ce serait bien quand même que toutes tes méditations, là, tous tes textes que tu avais faits pour le bulletin du rosaire, pour le pèlerinage du rosaire, pour la revue du rosaire, ben, tu en fasses un petit livre. Et moi, j'avais pas le temps. Et ben, c'est le confinement chez les moniales de Dax qui m'a offert ce temps. Et donc ce petit livre, je suis touché de vous le présenter ici aussi parce qu'il a baigné dans la prière des sœurs. Alors ce n'est pas de ce petit livre que je vais vous parler maintenant, cela je l'avais fait l'an dernier au monastère. Non, ce qu'on m'a demandé de vous dire, c'est quelques mots pour entrer dans ce mystère de Saint Joseph. Hein. Joseph ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, des mots que nous sommes invités à nous approprier en nous mettant à l'école de Saint Joseph. Et de fait, cette année, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, le pape François a voulu que nous ayons à cœur de méditer sur la figure de Saint Joseph. Vous vous rappelez peut-être que le 8 décembre dernier, il a écrit une lettre apostolique qui s'intitule « Patris Cordae », c'est-à-dire en latin « avec un cœur de père » où le Saint-Père nous invite à méditer sur la paternité de Saint Joseph. C'est un très beau texte, je vous recommande vivement de le découvrir, il n'est pas très long, et le pape François parle abondamment dans ce texte, et bien mieux que moi, de Saint Joseph. Il a plus de temps devant lui, je veux dire, dans ce texte que moi dans cette conférence, parce que je sais que le pape a un emploi du temps très chargé. Mais donc moi je vais être obligé de saisir quelques points, 2 ou 3. Et le premier d'entre eux, c'est l'embarras extraordinaire dans lequel vous me mettez. Parce que pour un dominicain, parler de Saint Joseph, ce n'est pas si évident que cela. Vous savez, les dominicains, ils ont la réputation d'être bavards, de prêcher longuement, vous en avez eu un exemple ce matin, de faire de beaux discours, et Saint Joseph, sous cet angle, Heureusement qu'il n'y a pas d'autres frères dominicains dans la salle. Eh bien, Saint-Joseph, c'est l'anti-dominicain par excellence. Saint-Joseph, si vous mettez sur les plateaux de la balance, d'un côté, ce que l'Écriture sainte nous dit de lui, et elle nous dit qu'il a accompli un certain nombre d'actes, on va y revenir, mais l'Écriture sainte, grosso modo, c'est le début de l'Évangile de Matthieu, les deux premiers chapitres, le début de l'Évangile de Luc, les deux premiers chapitres, nous disent ce que Saint-Joseph a fait pour obéir à la parole du Seigneur. Et en face de ces quelques bribes, de ces petites informations qu'on a sur lui, en face, il y a comme un déluge de commentaires depuis très longtemps, depuis l'époque des pères de l'Église, un déluge de publications, de discours. Figurez-vous qu'il y a même des congrès de joséphologie. Et je sais, c'était à l'étude, je ne sais pas où on en est maintenant, mais il y a des facultés de théologie où on songeait sérieusement à construire un certificat, un parcours reconnu, un certificat de joséphologie. Bon, moi, je ne suis pas un grand joséphologue, mais je suis quand même assez étonné de voir cette disproportion. Et alors, je ne vous parle pas des paroles de Joseph. Parce que si on met d'un côté de la balance, non pas ce qu'a fait Joseph, mais ce qu'a dit Joseph dans les évangiles, alors là, on est encore plus embarrassé, parce que combien de mots on peut compter ? Zéro. Aucun. Il n'y a aucune parole de Saint Joseph qui soit rapportée par les évangélistes. Joseph, c'est la figure de l'écoute. Un silence amoureux, contemplatif, mais actif en même temps. Il accomplit les actes que Dieu lui demande, mais il ne bavarde pas. En face, mon discours à moi, après celui de tant d'autres, se retrouve dans une situation, vous le comprenez, assez embarrassante. Prenons simplement, ça va vous donner une idée, de l'abîme de perplexité dans lequel un religieux est plongé. Quand on prend les grands offices liturgiques de la journée, ce matin on a chanté les laudes. Le point culminant des laudes, c'est le cantique de Zacharie. Donc Zacharie, le papa de Jean le Baptiste, qui d'un coup sa langue est déliée, il se met à parler sous la mouvance de l'Esprit-Saint et il proclame « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple », etc. Et donc cette magnifique prière, ces belles paroles de Zacharie, on les reprend tous les matins aux bréviaires. Le soir, aux vêpres, c'est le cantique de Marie, son magnificat. Donc on a des paroles de Marie, des paroles de Zacharie le matin, des paroles de Marie en fin de journée, et avant de se coucher, à l'office des complis, c'est le cantique dit de Siméon, en latin le Nunc Dimittis, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut », etc. Donc, vous voyez, bon, Marie, c'est quand même un personnage extrêmement important de l'histoire de notre salut, on a des paroles de la Vierge Marie, on a des paroles du papa de Jean-Baptiste, on a même des paroles du vieillard Siméon et rien de Saint-Joseph. C'est quand même assez frappant. Alors il y a un risque évident, c'est de vouloir remplir les vides. Ce que les évangélistes ne nous ont pas dit, on va essayer de le combler. Autrement dit, c'est le risque de faire du remblayage. Le remblayage, c'est très utile quand on est dans la construction de bâtiments. Mais tous les matériaux ne se valent pas. Il y a des matériaux de remblai qui sont très décevants. Alors, en la matière, il faut faire attention avec quoi on va remblayer. On peut remblayer avec des sources plus ou moins douteuses, comme par exemple ces textes qu'on connaît depuis très longtemps dans l'histoire de l'Église sous le nom d'apocryphes. C'est-à-dire des textes qui racontent la vie de Jésus, de la Sainte Famille, etc., mais qui n'ont jamais été reçus dans les communautés chrétiennes comme des textes suffisamment fiables pour qu'on puisse les proclamer dans la liturgie, pour qu'on puisse les utiliser pour la catéchèse. On ne les méprise pas, ces textes-là. Certains sont considérés comme vénérables, mais on les prend avec des pincettes. Par exemple, l'image de Joseph en vieillard, elle vient de cette littérature-là, alors que les évangélistes ne nous disent absolument rien de l'âge de Saint Joseph. Et puis, on peut aussi remblayer avec ce qu'on appelle, dans la théologie de l'Église, des révélations privées, c'est-à-dire les messages que le ciel donne à tel ou tel endroit, dans des apparitions, comme à Lourdes, à Pontmain, etc. Vous connaissez les apparitions de la Sainte Vierge, évidemment, par ne serait-ce que le pèlerinage du rosaire à Lourdes. Eh bien, il se trouve que Saint Joseph, dans l'histoire de l'Église, s'est manifesté aussi et a donné des paroles. Saviez-vous qu'à Fatima, par exemple, le 13 octobre 1917, dans la dernière apparition, les enfants ont vu la Sainte Famille dans le ciel, de même qu'ils ont vu Marie sous différentes apparences, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Mont-Carmel, etc. Donc Joseph était présent ce jour-là à Fatima. Et en France, évidemment, on peut songer à des lieux de grâce que Saint Joseph a visités, comme Cotignac, au XVIIe siècle, où Saint Joseph a laissé des messages pour encourager, exhorter, évidemment, comme la Vierge Marie ailleurs, à la conversion, à remettre Jésus dans sa vie, à écouter sa parole. Il y a aussi les sanctuaires, comme ici, où il n'y a pas eu d'apparition, mais où il s'est passé de belles choses. Et puis après, on voit qu'il y a des grâces qui sont données. Alors je pense, par exemple, au nord de Montpellier, pas très loin, il y a le sanctuaire de Puymisson. Je ne sais pas si vous connaissez le sanctuaire de Saint-Joseph de Montrouge. Alors vous voyez, on peut utiliser toutes ces réalités-là pour essayer de reconstruire un Saint-Joseph dont les évangélistes ne nous donnent qu'une esquisse très très vague. Mais on peut utiliser, pour faire ce remblayage, des matériaux un peu plus solides, un peu plus nobles même, au regard de la tradition de l'Église. Je veux parler de la Bible elle-même. Et c'est ce qu'ont fait des savants, des exégètes, ceux qui étudient la Bible, comme par exemple le frère dominicain Philippe Lefebvre, que vous connaissez peut-être de nom, qui est l'auteur d'un très beau livre sur Saint Joseph qui s'intitule « Joseph, l'éloquence d'un taciturne, enquête sur l'époux de Marie à la lumière de l'Ancien Testament ». Alors, le frère Philippe va chercher dans l'Ancien Testament des éléments dont il s'aperçoit que ils entrent en relation avec ce qu'on dit de Joseph au début de Matthieu et de Luc. Il y a des échos qui ont été ménagés. Ce matin, à l'homélie, je vous parlais vaguement, parce que nous n'avons pas lu ce texte dans la liturgie, mais de la généalogie. Dans la généalogie que nous donne Matthieu, comment s'appelle le père de Joseph ? Il s'appelle Jacob. Ouh là là, mais un Joseph dont le père s'appelle Jacob, ça ne vous rappelle rien ? Mais c'est le livre de la Genèse, l'histoire des patriarches. Jacob, le dernier, le petit, de la fratrie des patriarches, des fils, Joseph, le dernier des fils de Jacob. Donc il est évident qu'il y a un phénomène d'écho qui a été voulu dans l'histoire du salut entre Saint Joseph, le père adoptif de Jésus, et le Joseph des patriarches. Et puis, le Joseph des patriarches, dans la Genèse, vous pourrez vous reporter à votre Bible, Genèse 37-19, les frères de Joseph, qui ne l'aiment pas beaucoup et qui vont lui jouer un sale tour, ils se moquent de lui en l'appelant l'homme au songe, parce que Joseph a fait deux songes dans lesquels il voit qu'il dominera sur ses autres frères. Alors quand il leur raconte ça, ça passe pas très bien, et les frères ont envie de se venger. Joseph, l'homme au songe. Oh, mais dans l'évangile de Matthieu, dans les deux premiers chapitres, Matthieu nous rapporte que Saint Joseph a fait quatre songes au cours desquels l'ange du Seigneur est venu le visiter pour l'encourager dans sa foi, pour ne pas perdre courage, pour échapper à toutes sortes de dangers, et bien sûr, c'est le thème de notre rencontre, pour accueillir Marie chez lui. Donc, vous voyez qu'il y a des phénomènes d'écho particulièrement intéressant. On dit aussi dans l'évangile de Matthieu que Joseph ne voulait pas répudier publiquement Marie parce qu'il était un homme juste. Joseph le juste, c'est l'un de ses grands titres. Or, eh bien, la figure du juste dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une figure qui précède le Messie, qui préfigure, comme on dit dans les études bibliques, qui préfigure Jésus, qui annonce Jésus, Jésus le juste par excellence, le juste qu'on va faire souffrir, qu'on va persécuter, qu'on va mettre à mort, hein, et qui pour autant ne va pas devenir mauvais, va garder sa justice. Donc vous voyez que là, il y a une très très belle piste, hein, pour essayer de comprendre qui est Joseph. Mais sur ce terrain, eh bien, on cale un peu quand même, parce que je dois vous dire que Joseph a de la concurrence. Je parlais tout à l'heure de ces personnages secondaires, le frère Philippe Verdun, qui est donc le directeur qui s'occupe des éditions de la Licorne. Il a écrit il n'y a pas très longtemps aux éditions de la Licorne, dans la même collection que celle où j'ai publié, un petit livre qui s'appelle « Les vermisseaux de l'Évangile ». Il veut parler de tous ces personnages secondaires dont on ne sait à peu près rien et qui rencontrent Jésus et dont la vie est transformée par Jésus. Moi, j'ose à peine le dire, mais Joseph, il a presque quelque chose de ces vermisseaux de l'Évangile. Et lui, donc, comme on le disait d'entrée de jeu, il ne nous a laissé aucune parole. Alors, en face de lui, par exemple, il y a Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, nous a laissé beaucoup de paroles. Les évangélistes nous ont donné beaucoup d'informations sur Jean le Baptiste. Et Jésus lui-même a comme canonisé Jean-Baptiste en disant, dans Matthieu 11, 11, que Jean-Baptiste est le plus grand des hommes. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Il fait la jointure avec la Nouvelle Alliance. Et il a même été sanctifié, c'est pas le cas de Joseph, dès le sein de sa mère au cours de la visitation. Donc avec Jean-Baptiste, il y a un petit duel sur lequel on jouait quand j'étais un jeune frère dominicain au noviciat. On avait un frère brésilien qui avait une très grande dévotion pour Saint-Joseph et on se battait pour savoir lequel était le plus grand saint après la Vierge Marie. Alors, moi, je disais, parce que j'étais déjà très conditionné par l'Orient chrétien et les pères grecs, c'est là-dessus que porte ma thèse, je disais, ben non, c'est Jean-Baptiste, le plus grand saint après la Vierge Marie, parce qu'il y a cette parole de Jésus, parce qu'il y a la sanctification dans la visitation, et puis parce que, vous le savez peut-être, mais en Orient, on représente très souvent le Christ au centre, dans les icônes, et puis d'un côté, la Vierge Marie, et de l'autre côté, le précurseur, Jean, pas Joseph. Et puis, dans le calendrier liturgique, ça passe pas inaperçu, il n'y a que trois grandes figures de l'histoire du salut dont on célèbre la naissance. Jésus, à Noël, Marie, aujourd'hui, et Jean-Baptiste, le 24 juin. Il n'y a pas de fête de la naissance de Saint Joseph. Donc vous voyez que quand on essaye de se creuser les méninges sur Joseph, on finit par s'arracher les cheveux, hein, vous voyez ce que ça donne, hein, et on se demande si ça en vaut la peine. Eh bien oui, ça en vaut la peine, évidemment, hein, parce que l'Église l'honore d'une manière exceptionnelle et depuis longtemps. Au XIXe siècle, le pape Pie IX, en 1870, ça fait 150 ans cette année, c'est pour ça que le pape François a voulu qu'on célèbre ce 150e anniversaire, le pape Pie IX avait proclamé solennellement Saint-Joseph pour un autre saint dont je m'occupe actuellement, c'est Irénée de Lyon, donc futur docteur de l'Église, on espère, non. Il avait proclamé Saint-Joseph patron de toute l'Église, de l'Église universelle. Et puis son successeur, moins de 20 ans après, Léon XIII, en 1889, il écrit une encyclique sur Saint Joseph pour le proclamer protecteur de l'Église. Et ils ont suivi un raisonnement qui est très simple, c'est que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est Jésus continué. Nous sommes les membres de Jésus-Christ dans l'Église. Eh bien, si Joseph a veillé avec tant d'attention, de tendresse sur Jésus, il l'a protégé, il l'a pris dans ses bras, il l'a réchauffé, il l'a nourri, il l'a vêtu, il l'a soigné, il lui a appris à parler, il lui a appris à travailler dans son atelier de charpentier, il lui a appris à être un homme. Si cet homme a été capable de faire tout cela pour Jésus dans son corps physique, eh bien maintenant au ciel, on lui demande de continuer de le faire pour le corps mystique de Jésus qu'est l'Église. Vous voyez l'idée, hein ? Joseph continue d'exercer sa paternité sur Jésus, mais pas Jésus physique, si vous voulez, mais Jésus mystique, c'est-à-dire le corps de l'Église. Et puis aussi, l'Église, on dit que la Vierge Marie est une figure de l'Église. Marie représente l'Église à la fois en tant qu'elle est vierge et en tant qu'elle est mère. Eh bien, là encore, on peut poursuivre le parallélisme. Joseph a veillé sur Marie, il s'est occupé d'elle. Eh bien, de même, il continue de veiller sur l'Église et de prendre soin d'elle. Et cet aspect est si concret que dans plein de communautés religieuses, depuis le 19e siècle au moins, j'ai à l'esprit comme petit breton l'histoire de Jeanne Jugand, sainte Jeanne Jugand et les petites sœurs des pauvres, hein, qui avaient une très grande dévotion pour saint Joseph. Jeanne Jugand, elle avait une statuette de saint Joseph dans sa poche. Et toutes les sœurs, depuis lors, elles ont une statuette de saint Joseph dans leur poche et elles l'invoquent quand il y a des gros soucis, et notamment des soucis matériels. Hein, le Père nourricier de Jésus, il faut qu'il continue de veiller sur nous, sur nos pauvres, sur nos besoins. Alors, il y a une technique très simple qu'elles ont quand elles veulent être exaucées par saint Joseph dans leurs besoins matériels. Vous savez ce qu'elles font ? Si Joseph ne répond pas aux prières suffisamment rapidement, on le met en pénitence. Vous connaissez ça ? C'est-à-dire qu'on prend la statue de saint Joseph, qu'on honore, et on la retourne, Joseph, la tête contre le mur. Joseph, au coin. Voilà, tant qu'il ne nous aura pas obtenu ce dont on a besoin, on ne retournera pas la statue. Il paraît que ça marche très bien. On pourrait faire l'essai. Bon. Mais plus sérieusement, Joseph, il est mis aussi à l'honneur dans la liturgie. Je disais, Jean-Baptiste, il a la fête de sa naissance, mais il a aussi la fête de son martyr. Joseph, lui aussi, quand même, il a deux fêtes au calendrier. La Saint-Joseph, le 19 mars, alors ça, c'est une fête qu'on aime beaucoup dans les communautés religieuses, parce que c'est au cœur du carême, on jeûne, c'est terrible. Et puis là, hop, une fête solennelle de Saint-Joseph, au milieu du carême, on rompt le jeûne, on arrête la lecture à table, on boit une bonne bouteille, hein, et tout le monde est content. Donc celle-là, on ne l'oublie pas. Hein. Et puis le lendemain, quand le 20 mars arrive, eh ben, c'est reparti pour quelques jours de soupe à la grimace. Hein. Et puis il a aussi la fête du 1er mai. Saint Joseph, patron des travailleurs, c'est la figure de Joseph artisan. Hein. Joseph le charpentier. Dans la liturgie aussi, il faudrait dire, Joseph est à l'honneur dans toutes les célébrations qui concernent l'enfance de Jésus. Hein. À l'Annonciation, c'est une semaine après la fête de la Saint-Joseph, le 25 mars. Hein. À la Présentation, le 2 février. À Noël, évidemment. À l'Épiphanie. Hein. Et ce matin, pour l'anniversaire de la Sainte Vierge, et on a pris, comme je le disais dans l'homélie, un évangile qui met saint Joseph aussi au premier plan. Donc vous voyez qu'on ne manque pas d'occasion de le mettre à l'honneur. Mais ça ne suffisait pas. Le pape Jean XXIII, au Concile Vatican II, donc on est autour de l'année 1965, il demande que dorénavant, on mentionne toujours saint Joseph dans la première prière eucharistique. Le canon 1, comme on dit, le canon romain. Et comme ça ne suffisait pas, eh bien, le pape François, suivant une démarche qui avait déjà été engagée en amont, sans doute sous le pontificat de Benoît XVI, en 2013, le pape François a demandé que On cite Saint Joseph après la Vierge Marie, non seulement dans le canon 1, mais dans toutes les prières eucharistiques. Donc depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas si vous y avez fait attention, nous les prêtres, parfois on a la tête ailleurs quand on est à l'autel et on ne fait pas bien attention parce que ce n'est pas marqué dans les anciennes moutures du missel. On va en avoir une bientôt, là ce sera marqué dedans, mais si on ne fait pas attention, on oublie de nommer Saint Joseph parce que ce n'est pas écrit sur la page, il faut penser à la rajouter. Mais depuis le 1er mai 2013, le pape François, notre bon pape François, a voulu que nous prions spécialement Saint Joseph en l'honorant dans la prière eucharistique. Et bien sûr, il y a la lettre, j'en parlais au début, du 8 décembre dernier, pour nous amener à honorer, comme nous le faisons maintenant, spécialement Saint Joseph et à méditer sur son mystère. Et dans cette lettre du pape François, alors vous pourrez la reprendre, vous verrez que chaque chapitre, hein, il y en a 7, chaque chapitre développe un aspect de la paternité de Joseph. Joseph, père aimé, premier point. Joseph, père dans la tendresse, deuxième point. Joseph, père dans l'obéissance, etc., etc. Donc, je vous invite à vous reporter à cette merveilleuse catéchèse du pape François pour développer davantage ce que nous essayons de saisir ensemble aujourd'hui. Moi, de mon côté, comme dominicain, j'ai été très touché par un autre document du magistère de l'Église. C'était à l'époque de Saint Jean-Paul II. En 1989, Saint Jean-Paul II avait voulu faire mémoire du 100e anniversaire de l'encyclique de Léon XIII sur Saint Joseph, et donc il a écrit une exhortation apostolique, là aussi pour encourager le peuple fidèle à reprendre cette méditation sur Saint Joseph. Le texte s'appelle « Le gardien du Rédempteur », en latin « Redemptoris Custos », c'est comme ça qu'on connaît ce document, « Redemptoris Custos », c'est comme ça qu'on le nomme en général. Et ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'on voit que Saint Jean-Paul II, il avait vraiment envie de repartir de Saint Joseph pour essayer de refonder notre foi au Christ, hein, notre foi dans l'incarnation, parce que Saint Joseph, eh ben, c'est un saint du premier cercle, c'est l'un des tout premiers témoins, le tout premier témoin avec Marie du mystère de l'incarnation. Et donc, quand on fréquente Saint Joseph, la Vierge Marie, la Sainte Famille, on est plongé dans ce mystère central de notre foi chrétienne, Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu s'est fait homme en la personne de son Fils unique qui s'est incarné. Et Joseph est le premier témoin avec son épouse Marie de ce grand mystère. Donc vous comprenez que de l'embarras dont j'étais parti, je débouche dans une situation un petit peu plus lumineuse. Et j'en arrive donc à ce point que je voudrais approfondir un petit peu avec vous à la suite de Saint Jean-Paul II. Comment, à la suite de Joseph, nous refonder dans ce mystère central de notre foi, le mystère du Christ. Et c'est assez paradoxal, là encore, de prendre appui sur Saint Joseph, décidément. Pourquoi ? Eh bien parce que Saint Joseph, il a beau être aux premières loges de la Sainte Famille, évidemment il n'est pas le père de Jésus, au sens où il n'est pas le père biologique de Jésus. Joseph n'a pas engendré Jésus. Vous avez peut-être remarqué dans le texte de saint Matthieu, hein, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Joseph et ses frères. 39 fois le verbe engendrer. Le papa de Joseph, qui s'appelle Jacob lui aussi, on le disait tout à l'heure, engendra donc Joseph. Virgule. L'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Jésus fut engendré par qui ? Pas par Joseph. Il y a ici une rupture de construction dans la généalogie de saint Matthieu. Hein ? Jusqu'à présent, il y a un papa qui engendre un fils humainement. Et puis là, rupture, il n'y a plus de papa biologique, mais il y a l'époux d'une femme de laquelle Dieu fait sortir miraculeusement, virginalement, l'humanité de Jésus. C'est le grand secret de Marie, dont Joseph est le premier témoin. Et c'est ce que nous racontent en tout cas Matthieu et Luc. Donc, Jésus n'a pas été engendré par Joseph, le Fils éternel du Père, il est engendré éternellement dans la Trinité, dans la vie divine, au ciel, pour faire court, si vous préférez, hein, et par l'action du Saint-Esprit, il est engendré humainement, historiquement, temporellement, à l'époque de l'empereur Auguste et tutti quanti, hein, à Bethléem, du sein de la Vierge Marie. Et puis on a d'autres indices qui insistent sur ce fait étonnant. D'abord, Matthieu 1,25, qu'on a entendu ce matin, nous dit que Joseph ne s'unit pas à Marie jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Manière de nous dire d'une façon très claire, hein, que Jésus n'est pas le fruit de l'amour conjugal de Joseph et de Marie, mais que Jésus vient d'ailleurs. Jésus vient d'au-delà de cette vie terrestre. Jésus vient d'en haut. Et c'est rappelé d'une façon très fine dans la suite de l'évangile de Matthieu. Au moment de la fuite en Égypte, l'ange du Seigneur dit à Matthieu, « Prends l'enfant et sa mère. » Il lui dit pas « Prends ton fils. » Et un petit peu plus loin, eh bien, on dit « Joseph s'exécute, il prit l'enfant et sa mère. » Il ne prit pas son fils, ce n'est pas son fils. Et comme si ça ne suffisait pas, cette séquence, l'enfant et sa mère, elle est répétée encore deux fois après, au moment où Joseph revient d'Égypte et s'installe à Nazareth. Vous voyez comme l'évangéliste Matthieu a voulu vraiment insister sur ce point pour que nous soyons convaincus de l'origine divine de Jésus. Donc Joseph est celui qu'on appelle le père putatif de Jésus. C'est vraiment un vilain mot, il sonne très très mal dans notre langue. Latin putare, ça signifie estimer, supputer, supposer. Donc Joseph, il est le père supposé de Jésus. Tout le monde croit à Nazareth que Joseph est le père de Jésus. Luc 3, 23. Quand Jésus commença son ministère, il avait environ 30 ans. Il était à ce que l'on pensait, putare en latin, il était à ce que l'on pensait, fils de Joseph. Et puis, les habitants de Nazareth, quand ils vont entendre Jésus adulte, ils se disent, mais Matthieu 13, 55, n'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, etc. C'est le fils de Joseph, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il vient nous faire des grands sermons à la synagogue, hein? Et on a l'équivalent aussi dans saint Marc. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, hein? Et dans saint Luc, tous à la synagogue de Nazareth s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de la bouche, Luc 4, 22, et disaient, mais celui-là n'est-il pas le fils de Joseph ? Et même dans l'évangile de Jean, donc là je vous cite les quatre évangiles, hein, Jean il ne parle pas de l'enfance de Jésus et donc il ne met pas Joseph en scène de cette manière comme Marc, hein, et pourtant il nous dit qu'à Nazareth, à la synagogue, eh bien aussi on s'étonne, hein, alors, et c'est à propos du discours du pain de vie cette fois-ci, donc c'est je crois que je vous ai dit une erreur, c'est pas à Nazareth le discours du pain de vie, hein, et on dit, mais celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant je suis descendu du ciel? Jean 6, 42. Donc vous voyez, pour la plupart des gens, évidemment Joseph était le père de Jésus. point barre. Et même les premiers disciples le pensaient. Au début de l'évangile de saint Jean, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, c'est les premiers disciples, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Ce qui veut donc dire que même dans le cercle des premiers disciples de Jésus adulte, on n'est pas encore au courant de ce grand mystère de l'incarnation. Il va falloir du temps pour entrer dans l'intelligence de l'identité de Jésus, de qui est Jésus. Et sous cet angle-là, eh bien, alors oui, éclate la primauté de Joseph à côté de Marie, parce que lui, depuis le premier instant, il est au courant. Il le sait, lui, que l'enfant qu'a porté Marie n'est pas le sien. Il y a un très beau verset dans le livre de Tobie, Tobie 12, 7, qui parle du secret du roi. Eh bien, il est bon de tenir cachés les secrets d'un roi, dit le livre de Tobie, il faut aussi révéler les œuvres de Dieu et les célébrer comme elles méritent. Eh bien, dans le mystère de l'incarnation, il y a eu un temps pour tout. D'abord, le temps de la vie cachée, secrète, de l'enfant Jésus, de son adolescence, de ses premières années dont on ne sait à peu près rien, hein, sauf ce que nous en racontent les débuts des évangiles de Matthieu et de Luc. Mais voilà qu'une fois qu'on est au courant, qu'après la mort et la résurrection de Jésus, on a compris que dans l'identité de Jésus se joue quelque chose d'absolument unique dans l'histoire du salut, qu'il est le Fils éternel du Père venu parmi nous, alors là on va pouvoir publier et célébrer comme il se doit les merveilles de Dieu, et notamment cette merveille parmi d'autres qu'est l'incarnation. Donc, vous voyez, on prend acte du fait que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, et pour autant, est-ce que ça signifie qu'il ne serait qu'une sorte de couverture pour garder le secret, hein, un peu comme on parle d'une couverture policière, hein, pour cacher ce que les autres ne doivent pas savoir? Comme dit saint Jean-Paul II, est-ce qu'il s'agirait d'une paternité seulement apparente ou substitutive, hein? Et dans ce cas-là, alors, ben, l'Église n'aurait pas beaucoup d'intérêt à l'honorer comme elle le fait depuis tant de temps. Non, bien sûr, Joseph a beau ne pas être le père biologique de Jésus, il est pourtant réellement quelqu'un qui exerce sa paternité sur l'enfant Jésus et son rôle d'époux envers la Vierge Marie. Il est vrai père et vrai époux de Jésus sans pour autant être le père biologique de Jésus. Et ça, c'est quelque chose de très frappant. Je vous ai cité tout à l'heure tous ces mots dans l'évangile de Matthieu qui montrent très clairement que pour l'évangéliste, il fallait appuyer sur le fait que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Eh bien, en même temps, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, il y a des éléments qui montrent que pour Marie et pour Jésus, ça ne fait aucun doute que Joseph est bien un vrai époux de Marie et un vrai père pour Jésus, et même pour l'ange qui lui rend visite. Le texte nous dit qu'il rend visite à Joseph, l'époux de Marie. « Prends chez toi Marie, ton épouse. » Il prit chez lui Marie, son épouse. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Luc, dans le passage du recouvrement de Jésus au temple, Marie dit à Jésus qui vient de fuguer, « Mais tu te rends pas compte de l'angoisse dans laquelle tu nous as plongés? Vois, ton père et moi, nous te cherchons. Ton père et moi, nous te cherchons. » Et puis, après la présentation, toujours chez Luc, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Tout à l'heure, on disait, hein, « Prends l'enfant et sa mère, pas ton fils. » Mais ici, c'est bien le père et la mère de l'enfant. Et puis, c'est lui qui va donner, comme le demande l'ange, son nom à Jésus. Alors vous voyez, on touche du doigt ici quelque chose de très étonnant. Hein ? C'est que la Sainte Famille, c'est une réalité très inhabituelle. Très inhabituelle, mais pas par défaut, comme s'il manquait quelque chose. C'est une réalité très inhabituelle par excès, comme s'il y avait là une plénitude qui se jouait. Joseph n'a pas de relation sexuelle avec Marie et pourtant s'exerce envers elle un véritable amour conjugal, un amour sponsal. Et de même que dans la vie des consacrés, de ceux qui deviennent, comme dit Jésus, eunuques pour le royaume, eh bien c'est aussi un amour virginal. Et Jean-Paul II disait, vous avez là les deux notes principales de l'amour que représente l'Église sur la terre. L'amour sponsal, conjugal, et l'amour virginal. Le sacrement du mariage, d'un côté, la vie consacrée, de l'autre. Et bien dans la Sainte Famille, vous avez ce mystère étonnant de synthèse de ces deux réalités. Alors que nous aurions tendance à regarder avec nos yeux de moderne une sorte de famille un peu brinque-ballante quand même, au point de vue naturel, un père qui n'est pas le père biologique, une épouse qui reste vierge, un mari qui du coup, lui, va être connu sous le titre de Joseph très chaste, c'est quand même étonnant comme modèle de famille, vous avouerez, à donner aux fidèles. Et pourtant, effectivement, dans cette famille, on contemple une réalité extraordinaire, une qualité d'amour, une qualité d'être qui nous parle du monde à venir, qui nous parle du royaume de Dieu. Les réalités terrestres ne sont pas abolies, elles ne sont pas écrasées par la venue du royaume de Dieu, mais elles sont soulevées, elles sont comme saisies dans la grâce et dans la gloire de Dieu. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se joue au plus haut point dans le mystère de la Sainte Famille et donc dans le mystère de Saint Joseph. Quel est l'enjeu de cette réflexion que j'ai voulu vous présenter sous un angle plus biblique et plus théologique, parce que avec les équipes du Rosaire, on est un peu encore dans la famille dominicaine, où il y a cette fibre qui vibre pour l'intelligence de la foi. Eh bien, l'enjeu, il est très grand. Et vous allez mieux le comprendre dans la conclusion que je voudrais vous donner. Nous aurons un petit temps d'échange ensuite, au cours duquel vous pourrez me poser des questions. Mais vous voyez, Joseph est le père adoptif de Jésus. Ou si vous préférez, Jésus est le fils adoptif de Joseph. Pas le fils naturel de Joseph. Parce qu'il est le fils naturel, le fils par nature, de Dieu le Père dans la Trinité. Eh bien, pour nous, on renverse les curseurs. Nous ne sommes pas les filles et les fils, les enfants naturels de Dieu dans la Trinité. Sinon, nous serions Dieu. Nous serions une quatrième personne de la Sainte Trinité. Et je vous rassure, on ne l'a toujours pas trouvé. Nous sommes donc, comme disent Saint Jean, Saint Paul et d'autres auteurs du Nouveau Testament, nous sommes les enfants de Dieu par voie d'adoption. Nous avons été adoptés dans le Christ. Par notre baptême, nous sommes des filles et des fils adoptifs de Dieu. Comme le rappelle le pape Jean-Paul II en citant Éphésiens 1:5, Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Il s'agit pour nous de trouver, de retrouver, si on l'a perdu, notre identité profonde d'enfant de Dieu. En envoyant son Fils dans notre chair, dit l'évangéliste Jean, Jean 1,12, eh bien Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption. bien, vous voyez que cette situation qui vient s'inscrire dans l'histoire de Joseph et dans la Sainte Famille, elle parle de ce mystère en profondeur. Par l'incarnation, celui qui, humainement, est le fils adoptif de Joseph, divinement, fait de nous les enfants adoptifs de Dieu. Vous voyez une sorte de chassé-croisé qui, là encore, est une variation sur cette phrase qu'on fait remonter au père... Hop, là, mon curseur qui me dit qu'il est temps de m'arrêter. Cette variation qu'on fait sur une phrase qu'on fait remonter au père grec du IIe siècle, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu » ou « pour que l'homme devienne Dieu », si vous voulez. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est que Dieu a pris notre condition humaine dans le Christ pour faire de nous des dieux, en quelque sorte, par adoption, par participation, pour nous faire entrer dans la vie divine, la vie du ciel, pour nous faire participer à cette vie. Et là, on entre dans quelque chose vraiment d'abyssal au point de vue théologique. Je vais finir en honorant Marie. Il y a un chant très populaire qui dit que Marie, elle est celle qui a porté dans son sein celui qui porte tout, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui a tout créé. Jean 1:1, la parole créatrice. Marie a porté dans son sein celui qui porte tout, ou, comme vous le disiez, au premier rang, je l'ai entendu, dans l'hymne Alma Redemptoris Mater, une ancienne hymne mariale, on dit que Marie, elle a mis au monde, elle a enfanté, celui qui l'a créé. Elle a enfanté son créateur. Waouh, ça donne du fil à retordre à nos méninges. Même les scénarios des films de science-fiction les plus avancés patinent derrière cette histoire du salut. Eh bien, avec Joseph, on peut aussi faire ce joli croisement. Joseph, le charpentier de Nazareth, il a adopté humainement celui qui l'a adopté, lui, et à travers lui, nous tous, divinement. Joseph a adopté humainement et a donné ainsi un magnifique exemple de ce que peut faire aussi l'être humain qui ne se réduit pas à de la biologie, avec une telle générosité envers Marie alors qu'il aurait pu la répudier puisque l'enfant n'était pas de lui, comme le dit l'évangile de Matthieu. Non, il a exercé cette générosité extraordinaire, il s'est laissé bousculer par le plan de Dieu sur la Sainte Famille. Et ça a été compliqué, on pourra peut-être en dire quelques mots dans l'échange, mais ça a été dur, que d'épreuves après, dans cette série du rosaire qu'on appelle les mystères joyeux. Que d'épreuves pour Joseph et pour Marie. Il s'est laissé ébranler par tout cela, généreusement, pour adopter humainement cet enfant qui n'est pas le sien, mais à travers lequel Dieu adopte chaque personne humaine pour en faire sa fille, son fils, bien-aimé. Donc, Joseph, sous cet angle, est le fils de son fils. Joseph, sous cet angle, est le fils adoptif dans la divinité de celui qu'il a adopté en humanité. Merci beaucoup pour votre écoute.